Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils sont de plus en plus nombreux dans nos villes et dans nos campagnes. Ils, ce sont ces prêtres, ces religieux et ces religieuses venus d'ailleurs, comme on dit. Ces nouveaux missionnaires sont le symbole d'une nouvelle ère dans l'Église qui n'en est probablement qu'à ses débuts. Une révolution pastorale qui n'est pas sans poser de questions et pose de grands défis, notamment celui de l'interculturalité, soit de la compréhension que l'on a de la culture de l'autre pour former une Église, une vraie. L'Église au défi de l'interculturalité ou de l'interculturel, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec autour du plateau. Alors il y a du monde, Armel Becquet, vous êtes responsable de la mission universelle de l'Église pour le diocèse de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Marie-Claude Lutran, vous êtes enseignante-chercheur en sociologie à l'Institut catholique de Toulouse et intervenante au CNFPT, c'est-à-dire Centre National de la Formation Publique Territoriale, bonjour.
Bonjour.
Sœur Dolores Savary-Moutou, vous êtes sœur indienne des missions étrangères dans une paroisse toulousaine à Saint-Paul dans le quartier des Minimes. Bonjour.
Bonjour.
Et Norbert Mouisha Bongo, vous êtes prêtre congolais, donc République démocratique du Congo et missionnaire d'Afrique, autrement appelé les Pères Blancs. Bonjour.
Bonjour.
On va donc parler de l'interculturalité. Alors je le dis, je taquine Isabelle O'Neill, responsable de la matinale ce matin, qui me faisait des gros yeux en me disant qu'est-ce que c'est que l'interculturalité. Évidemment, après quelques explications, c'est plus simple à comprendre. Peut-être en chapeau de l'émission, vous qui êtes donc la spécialiste S interculturalité, Marie-Claude Lutran, comment vous présenteriez pour les néophytes que nous sommes ce qu'est l'interculturalité?
L'interculturalité, déjà il y a le préfixe inter qui veut dire entre, donc ça suppose la relation entre les cultures, et comme on ne rencontre jamais des cultures, on rencontre d'abord des personnes qui sont de cultures, de telle ou telle culture, donc c'est la relation à l'altérité, la relation à l'autre différente de soi.
Voilà, tout simplement.
Oui.
C'est une affaire de relations, répétez-vous
oui.
à l'envie. Hein,
oui,
c'est...
et ce qui est très important, c'est de différencier le multiculturel et l'interculturel. On est dans un monde multiculturel, on est dans des paroisses multiculturelles, on est dans des écoles multiculturelles, ça c'est un état de fait. Par contre, l'interculturel, ça se décrète pas, ça se construit dans la relation à l'autre. D'où l'importance d'avoir une attitude favorable et respectueuse de l'altérité.
Voilà, donc on est face à des réalités et il faut arriver à vivre autrement que juxtaposer les uns à côté des autres. Alors on s'est dit qu'on allait commencer par essayer de dresser un tableau certes rapide, mais qui permet de prendre un peu la mesure de la situation avec vous tous, mais particulièrement peut-être avec vous, Armel Becquet et Marie-Claude Lutran. On a trouvé ces chiffres donc en préparant l'émission en France, et donc il y aurait 5000 prêtres français de moins de 75 ans, on appelle ça donc les prêtres actifs, et plus de 2000 d'entre eux viennent d'ailleurs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont en mission pastorale en France. Ça fait donc un gros tiers, hein, et on trouve ce chiffre sur le site de la Conférence des évêques de France, de la mission universelle de l'Église, pardon. C'est un gros tiers. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme élément à nous donner, Armel Becquet, qui permet de dresser un peu un tableau d'ensemble?
Alors, par rapport au tableau d'ensemble, effectivement... Il y a les prêtres qui viennent d'ailleurs, mais il y a aussi tous les agents pastoraux, c'est-à-dire toutes les congrégations religieuses avec des hommes et des femmes qui viennent d'ailleurs, qui s'établissent en France. On a d'ailleurs un phénomène nouveau aussi en France par rapport au visage de l'Église, c'est qu'il y a des congrégations religieuses fondées en Afrique ou en Amérique du Sud qui demandent à venir s'installer en France pour faire la mission. Et ça, c'est un phénomène totalement nouveau, parce que...
Ils n'envoient pas seulement des religieux et des religieuses, mais ils demandent à fonder, en fait, des monastères...
En fait,
ou
ils ont été fondés, ils ont fondé des congrégations dans leur pays d'origine, et ils décident de venir en mission en France. La France est une terre de mission. Mmh. Ça fait depuis l'après-guerre qu'on le dit, mais là, c'est vraiment devenu un état d'esprit. On n'est plus dans la mission du nord au sud ou du sud au nord. On est dans une mission ce qu'on appelle intergentes, c'est-à-dire c'est de partout à partout. Il y a un flux. C'est ça reflète bien la société actuelle.
C'était agentes avant et maintenant c'est intergentes,
voilà,
c'est ça ? Voilà,
c'est
donc intergentes, interculturel, on se dit qu'on tient le bon bout. Voilà. Donc de fait, au-delà des prêtres, et on pourrait citer donc les religieux, les religieuses, j'ai vu que ces prêtres étaient venaient majoritairement d'Afrique, ça tombe bien, c'est le cas aujourd'hui aussi. Et puis on peut dire un mot aussi des séminaristes, j'ai vu que 25% des séminaristes en formation en France sont des étrangers. Et puis vous aviez des chiffres même sur les ordinations, Armelle Becquet.
Oui, alors au niveau des ordinations, par exemple pour 2018, on a eu 200 ordinations de prêtres originaires de France et on a eu 100 ordinations de prêtres originaires de France et on a eu 200 prêtres venus d'autres pays qui ont été ordonnés en France l'année dernière, en 2018.
Donc,
vous voyez que le visage change aussi. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est la présence des communautés catholiques venues d'ailleurs qui grossissent et qui font de l'animation au sein des paroisses.
Donc là, c'est vous parler de toutes les personnes migrantes
voilà,
qui sont d'origine étrangère et qui participent à la vie de l'Église.
Il y a les associations catholiques, malgaches, tamouls, etc., grossissent d'année en année.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour le diocèse de Toulouse ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Je ne sais pas, les prêtres représentent quelle proportion, par exemple, des prêtres actifs pour le diocèse ?
Alors, sur le diocèse de Toulouse, on a une trentaine de prêtres qui viennent d'ailleurs. Et parmi ces 30 prêtres qui viennent d'ailleurs, donc il faut savoir qu'il y a à peu près, je crois que c'est entre 150 et 180 prêtres sur le diocèse.
Un sixième ou un cinquième,
voilà.
Ouais.
Et parmi ces 30 prêtres, il y en a déjà une dizaine qui sont incardinés. Voilà. Parmi les prêtres qui viennent d'ailleurs, il y en a qui viennent pour un temps plus ou moins long, parce qu'ils viennent en mission d'études. Ils viennent à l'Institut catholique se former, finir de se former, parce que pour beaucoup, ils sont très bien formés déjà avant d'arriver ici.
On en croise de temps en temps,
voilà,
qui viennent faire leur doctorat ici. Oui.
Après, on a les prêtres Fidei Donum, ce qu'on appelle les prêtres Fidei Donum. Ils viennent pour 3 ans ou 6 ans. Et quelquefois, à l'issue de ces 6 ans, en fait, ils repartent pas forcément dans leur pays.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples aussi de congrégations religieuses ? Par exemple, je pense à ces sœurs africaines incroyablement courageuses, pardon pour le Comminges, hein, mais installées dans le Comminges, qui est quand même vraiment, pour le coup, une terre de mission. Racontez-nous peut-être ces sœurs-là.
Alors, dans le Comminges, il y a les sœurs vocationnistes qui sont installées pas loin de Saint-Gaudens.
Et qui viennent.
Elles viennent, en fait, ce sont des congrégations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces congrégations, elles sont déjà multiculturelles. C'est-à-dire que, à l'intérieur des congrégations, il peut y avoir une sœur qui arrive de Madagascar, une sœur qui arrive de Centrafrique et une sœur qui arrive du Congo. Et déjà, elles apprennent à vivre ensemble l'interculturalité. Et du coup, pour aller en mission.
Et en plus, elles sont confrontées aux autochtones.
Voilà. Et en plus, elles sont confrontées aux autochtones. Après, on a les sœurs Notre-Dame de la Paix qui sont installées à Ramonville et Pouvourville. Puis on a les sœurs des missions étrangères dont fait partie sœur Dolores.
Alors j'aimerais qu'on prenne un peu en introduction de l'émission deux illustrations des défis que ça peut représenter. La première illustration, on va commencer avec vous, Père Norbert Michouabongo, c'est parfois le rapport qu'ici les fidèles ou les Français ont à la vie sacramentelle. Armelle Becquet me racontait que, donc si elle me le raconte, c'est que c'est vrai, c'est d'expérience, qu'ici on peut avoir un petit, comment dire, on peut parfois considérer les sacrements ou les prêtres comme des distributeurs de sacrements. On pense entre autres au nombre de personnes qui se font enterrer à l'église. Est-ce que pour le prêtre que vous êtes, ça a été un choc quand vous êtes arrivé ici ?
En entrant dans le bâtiment, un de vos collègues me disait, tiens, les prêtres sont finalement, on les utilise très bien parce qu'ils distribuent bien les sacrements. Alors, j'ai ri et j'ai dit, ben, c'est l'aspect plutôt missionnaire qu'il faut mettre en avance et pas la distribution des sacrements. Il est vrai que moi, personnellement, ça a été un choc où ici, on voit que l'église devient de plus en plus le lieu d'accueil pour les cercueils, quoi.
Voilà, il y a des prêtres dans les campagnes qui ne font qu'enterrer.
Chez moi, je ne peux pas accueillir quelqu'un pour célébrer les funérailles si cette personne-là ne venait pas à l'église, ou bien la communauté des bases, une petite communauté des bases où se partage toutes les semaines l'évangile du dimanche. Si cette personne-là n'était pas connue dans cette communauté des bases où cette personne ne venait pas à la paroisse, ben, ce qui est sûr, on ne célèbre pas les funérailles. Mais ici, non, c'est comme cela. Vous avez le pont funèbre qui appelle. Il faut faire un sacrement, donc célébrer les funérailles de ces gens-là. On ne sait même pas est-ce qu'ils venaient à l'église, ils étaient chrétiens ou bien quoi. Je me suis retrouvé une fois avec un cercueil, tout seul. Et j'ai appelé deux dames qui sont de l'équipe pastorale de funérailles pour au moins assister. Seul, je me disais, mais je suis dans un film ou quoi? Seul avec le cercueil, parce que oui, la personne a demandé qu'il y ait évidemment des obsèques pour...
Alors vous n'êtes pas dans un film, vous êtes en France. Sœur Dolores Savarim Moutou, donc vous aurez l'un et l'autre évidemment d'autres occasions de nous partager vos expériences, mais je me disais qu'il était bon de commencer aussi par un autre exemple, c'est le rapport entre les laïcs et puis les prêtres et les religieux. Les laïcs chez nous ont beaucoup de place, et vous en arrivant vous m'avez dit que ça vous avait un peu surpris, racontez-nous ça.
Oui. La charité chrétienne se vit en action et non en parole. Il y a beaucoup d'associations humanitaires pour aider les gens qui sont dans le besoin et dans la détresse.
Alors là,
Je constate que les gens sont très engagés au service de l'Église. Par exemple, partout, mais en Inde, nous n'avons pas pour distribuer de communion ou d'autres engagements. Laïcs ne participent pas. Mais ici, les laïcs participent à l'Église très active.
Ça vous a surpris, mais plutôt de manière positive, en l'occurrence.
Positive, oui. Moi, j'accepte, j'apprécie beaucoup les laïcs qui font beaucoup de catéchisme, beaucoup de caritatives. Ils sont en avance.
Voilà, c'est donc...
Par rapport à l'Inde, les femmes, elles sont...
Les fruits du Concile Vatican II. Est-ce que vous pouvez nous dire, Armelle Becquet, peut-être les grands défis que ça pose aujourd'hui dans l'Église, ces incompréhensions, on va dire, culturelles, qui concernent la vie ecclésiale, mais pas que. Est-ce que, je ne sais pas, il y a deux, trois grands défis comme ça que vous avez identifiés qui justifient de faire des formations, comme on va le voir après?
Je pense que les grands défis que ça pose, c'est que, bon, il y a les personnes qui arrivent, qui ont besoin de se former, mais je crois qu'il y a les personnes qui accueillent aussi, qui ont besoin de se former. Parce que ce n'est pas évident d'aller vers l'autre et d'accepter que dans son quotidien, ces personnes, ces prêtres qui arrivent ou ces religieuses, aient un autre fonctionnement. Mais peut-être que si on se met... il faut faire un pas chacun l'un vers l'autre, pour arriver à s'enrichir et pour arriver à travailler correctement et surtout à passer correctement le message du Christ. La source, au départ, elle est la même, c'est le Christ. Après, l'inculturation a fait qu'il y a des chemins qui ont différé.
Père Norbert Michoua-Bongo, avant qu'on fasse une première pause, est-ce que c'est pas là, en fait, aussi, cette question de l'interculturalité, donc on va développer, dans le fond, une question théologique, c'est-à-dire que la foi chrétienne, c'est une forme déjà, pardon, hein, mais il y a une forme de, en tout cas, je ne sais pas si une forme d'interculturalité au cœur même de la vie chrétienne, mais l'Église est appelée à manifester de manière particulière le visage d'un Dieu qui est lui-même relation. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus avant qu'on fasse une première pause?
Effectivement. C'est aussi une question théologique, parce qu'on voit déjà que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu trinitaire. Donc il y a déjà cette relation qui est présente. Et de deux, pour l'Église, c'est aussi une question où l'Église est appelée à faire l'expérience de la Pentecôte. Et cette expérience de la Pentecôte, ça veut dire, elle ouvre à... l'être ensemble des différentes cultures, la rencontre et l'acceptation des uns et des autres. Donc la question de l'interculturel est aussi une question théologique, parce qu'elle nous remet à l'essence même de l'être religieux chrétien.
Voilà, même si à la Pentecôte, ils étaient un petit peu aidés parce que chacun entendait dans sa langue, mais c'est aussi le miracle normalement de la vie chrétienne. Voilà, in fine, on finit par comprendre la langue de l'autre et l'entendre comme sa propre langue. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre.
Effectivement, et ça appelle à l'unité.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver avec Marie-Claude Lutran qui va nous faire une petite formation à l'interculturalité pour tous ceux qui ne pourront pas aller donc à la prochaine formation qui a lieu donc le 28 et 29 mars prochain au Christ-Roi. Une journée donc de formation sur ce thème de 9h30 à 17h. Et puis pour ceux qui nous quitteraient maintenant, n'oubliez pas, la fête des peuples, c'est dimanche prochain, dimanche 24 mars à Saint-Bertrand de Comminges. Rendez-vous est donné à 10h à la basilique Saint-Just de Valcabrère. Vous nous en direz un petit mot à la fin de cette émission. Armel Becquet. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'Église au défi de l'interculturalité, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Armel Becquet, responsable de la mission universelle de l'Église pour le diocèse de Toulouse, Marie-Claude Lutran, entre autres donc enseignante-chercheure en sociologie à l'Institut catholique de Toulouse, sœur Dolores Savary Moutou, qui est sœur indienne des missions étrangères, et le père Norbert Michoua Bongo, qui est prêtre congolais, missionnaire d'Afrique, autrement appelé les pères blancs. Je souris en prononçant père blanc, parce que vous n'êtes pas en blanc. Donc vous nous brouillez un peu les pistes quand même. Hein. Marie-Claude Lutran, alors l'interculturalité, donc charge à vous d'essayer de nous faire découvrir ce que c'est, non pas pour les auditeurs ne se rendent pas à cette formation organisée donc au Christ Roi le 28 et 29 mars prochain, mais aussi pour tous ceux qui peut-être ne pourront pas venir et ou qui sont intéressés par le sujet. Alors dans tous les documents que vous m'avez donnés dans la préparation, il me semble que il était bon de commencer par 2-3 mots d'introduction. Vous l'avez dit au début, quelque part, si j'ai bien compris, on fait tous en fait de l'interculturalité sans le savoir. C'est comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans s'en rendre compte.
Oui, absolument. Je crois qu'il ne faut pas réduire l'interculturel à l'interethnique. En fait, on n'est pas la rencontre de la différence, de l'altérité. C'est pas juste avec des personnes qui viennent d'ailleurs. L'interculturel, comme je disais au départ, c'est pas juste rencontrer une culture. On rencontre jamais des cultures, on rencontre jamais dans l'interreligieux des religions. On rencontre des personnes porteuses de religions, de cultures, d'une trajectoire. Donc l'interculturel commence vraiment au plan interpersonnel.
Donc c'est déjà important parce que ça veut dire que c'est pas d'abord un rapport d'idées, c'est un
Absolument.
Rapport de personnes.
Il faut éviter de penser qu'on fait de l'interculturel juste en apprenant des éléments sur la culture de l'autre. Ou juste en comparant ma culture à celle de l'autre. Non, c'est vraiment une interaction. Et donc, ça suppose la relation. Hein, ça suppose la relation, et ça, c'est très, très important. Donc, c'est un enjeu à la fois interpersonnel, mais c'est un enjeu aussi pour un vivre ensemble durable. Hein, c'est un enjeu sociétal, au plan local, national, international. C'est un enjeu aussi important que l'enjeu écologique, selon l'UNESCO. C'est l'enjeu d'un développement humain durable. Donc, c'est quelque chose de très, très important.
Alors, quand je dis qu'on fait parfois de l'interculturel sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est en relation avec quelqu'un qui est différent, quelque part, c'est déjà une forme d'interculturalité.
Alors,
on est dans
le rapport à la différence. Après, comment on le vit, ça, c'est autre chose. La formation que je propose elle est, depuis quelques années pour le diocèse, c'est de rentrer dans une démarche non pas purement cognitive, parce qu'on comprend, on peut comprendre qu'on est différent, on peut avoir de belles valeurs de tolérance ou d'ouverture, mais quand on se retrouve en situation face à des personnes avec lesquelles on n'a pas la même vision des choses ou on ne réagit pas de la même façon, ben là, ce n'est pas si simple. Donc, il faut prendre conscience de nos modes de fonctionnement dans le rapport à l'autre. Et parfois, dans ce rapport à l'autre, eh bien, on est plus dans la projection, dans le regard ethnocentrique, que dans la démarche décentrée.
Parfois, même souvent. C'est la tendance naturelle.
C'est souvent le regard spontané et premier est un regard ethnocentrique et projectif. Parce que dans un premier temps, on n'a pas d'autre moyen que d'essayer de comprendre le nouveau à partir de ce qu'on connaît.
Alors, je me disais qu'il y avait un autre préambule aussi, c'est que parfois sur cette question de l'interculturalité, si j'ai compris, bien compris, il y a deux écueils qu'il faut souligner, c'est-à-dire que soit on peut tomber dans une forme de communautarisme aussi, soit au contraire se dire que dans le fond il y a une forme de relativisme, c'est-à-dire que ces différences n'existent pas forcément ou ne sont pas si importantes que ça. C'est pas tout à fait ça le dialogue interculturel.
Non.
Alors expliquez-nous la ligne de crête que c'est entre ces deux excès.
Ni le repli ni la fusion des identités. Il n'y a pas de relation équilibrée s'il n'y a pas des identités conscientes d'elles-mêmes. Donc, un des passages obligés de la démarche interculturelle, sachant que la démarche interculturelle, c'est acquérir des compétences interculturelles. Ce n'est pas une technique, c'est une manière d'être avec l'autre. Et ça, c'est valable aujourd'hui dans le monde actuel pour n'importe quelle personne, puisqu'on vit dans un monde multiculturel, dans l'enseignement, dans l'église, un peu partout. Et donc... La connaissance de soi est un premier pas. Alors, pas au plan psychologique, mais dans ma formation, c'est comprendre un petit peu par quel moule social et culturel je suis passée, schématiquement, pour voir le monde de cette façon, pour réagir de cette façon plutôt que d'une autre. Face à une même situation, moi, je réagis comme ça. Une autre personne à côté de moi voit la même situation, elle réagit autrement. Ça vient d'où ? Ben, ça vient Donc prendre conscience déjà, et donc on fait un travail sur
Prenez votre exemple, en l'occurrence, vous en avez parlé dans une autre émission, c'était RCF
oui,
Pays Tarnais.
Donc c'est vrai que...
Cette histoire d'amis voilés en Iran.
Ces formations interculturelles, pour moi, c'est pas juste une démarche intellectuelle, parce que je suis entre guillemets sociologue, universitaire, c'est parce que ça m'a interpellée, moi, dans ma propre histoire, dans mon propre vécu, dans une expérience fondatrice que j'ai vécue d'abord en Iran... pays avec lequel je suis très liée parce que j'ai fait des études avec une amie iranienne universitaire à Toulouse et puis elle est rentrée en Iran, je suis allée la voir et les trois premiers mois, je suis restée trois mois là-bas le premier été et j'ai vécu un choc culturel par rapport à cette question du voile dans le contexte iranien. Hein, donc là, c'est obligatoire au plan politique.
Pour vous y compris.
Et pour moi y compris. Donc moi, je devais le porter. Et moi, je suis partie, même tout en étant sociologue, avec beaucoup de préjugés. Hein, et je considérais ce symbole comme un symbole de soumission de la femme à l'homme. Hein, ce qui peut être le cas et interprété de cette façon-là dans certains contextes. Mais... ce qui, fondamentalement, dans la recherche que j'ai faite sur la mystique, le schisme, etc., peut avoir une autre signification, beaucoup moins patriarcale. Et donc...
Alors, dans le témoignage que vous m'avez envoyé, ce qui me semble intéressant, c'est que vous dites aussi que c'est parce que vous aviez un lien, justement, d'amitié, donc
absolument.
On peut dire aussi d'amour, avec cette personne, que vous avez réussi à aller au-delà.
Absolument.
Expliquez-nous ça.
Je pense que l'interculturel... pour que ça soit pas juste une technique, mais une manière d'être, une manière de relationner, de vivre, il faut que ça nous touche, pas seulement intellectuellement, mais affectivement. Alors, on n'a pas besoin d'aimer tout le monde, mais il faut être bousculé aussi dans ces ressentis émotionnels pour rentrer dans une expérience et pas juste dans une connaissance.
Alors, comme vous parlez d'amour, je vois toutes les mains qui se lèvent, c'est beau quand même. Hein. Mmh. Armelle Becquet, vous aviez un mot de réaction?
Oui, moi je vais appuyer aussi, expérience personnelle. On est obligé de passer par des chocs interculturels pour avancer dans une relation interculturelle. Moi personnellement, j'ai deux filles qui se sont mariées avec des Africains. C'est parce que j'ai aimé mes filles et l'amour que j'avais pour mes enfants qui m'a fait dépasser le choc, le premier choc de l'annonce. Il faut accepter de dépasser ces chocs.
Père Norbert Michoua Bongo, vous voulez dire un mot aussi? Vous êtes obligé d'aimer les Français, mais vous les aimez quand même, c'est ça?
Non, je ne suis pas obligé d'aimer les Français. Je les aime, pas par obligation, mais parce qu'ils sont, évidemment, nous partageons la même humanité. En cela, je les aime. Juste pour appuyer ce que Mme Claude disait, la question de l'interculturalité n'est pas une question simplement de la connaissance, de l'intelligence. C'est une question d'attitude, c'est une question de vie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que l'interculturel est une question qui est réservée à une personne ou à une catégorie. Elle nous touche tous et toutes. Il y a des aspects, bon, il y a la mondialisation, il y a l'interconnectivité, il y a tous ces aspects nous touchent. Alors, quand on le vit, le choc que cela produit peut être alors lu de deux manières. Je pense que quand on le lit d'une manière positive, l'interculturel, en fait, nous donne une naissance. Nous devenons... une autre personne.
Alors, on va continuer avec vous, Marie-Claude Lutran. Vous me disiez donc que si on a ces préambules, on va dire, en tête. Non, il y en a peut-être un dernier. Vous parlez du piège du culturalisme. C'est quoi le piège du culturalisme?
Le piège du culturalisme, c'est justement de rencontrer non pas la personne, mais l'étiquette ou les projections que je peux avoir sur elle. Mmh. Et donc, on est dans la généralisation. Donc, je sais que les Africains, c'est ça. Donc, pof, je colle ça sur tous les Africains que je rencontre. Et je ne rencontre pas la personne. Je rencontre une projection. Oui.
Alors, si on rentre donc dans cette démarche de formation, si vous nous donnez, on va dire, quelques clés, vous dites qu'il faut commencer donc par la connaissance de soi. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin?
Oui.
Dans cette connaissance de soi, quelles sont les choses clés qu'il faut essayer de comprendre sur soi avant de rentrer en relation avec l'autre, si j'ai
Alors,
bien compris?
Alors, le fil rouge de cette formation, c'est rentrer dans un processus de formation, un processus de transformation, de prise de conscience. La formation n'a pas pour but de nous révéler, de mettre des... l'accent surtout sur des potentiels qu'on a déjà. Hein. Et donc le fil rouge de la formation, c'est comment passer du choc culturel à une expérience positive de l'altérité. Comment passer de la réaction à la relation. Hein. Et donc le premier passage, puisque Martin Buber disait entre toi et moi, l'important, c'est le « et ».
Martin Buber, qui est-ce, juste, en deux mots ?
Un philosophe spirituel aussi. Hein. Entre toi et moi, l'important, c'est le « et ». Donc, ce n'est pas la relation à l'autre, c'est la relation entre. Qu'est-ce qui se passe entre moi et l'autre ? Donc, c'est une interaction, et le passage obligé, c'est la connaissance de soi. C'est
alors, pas vous, juste vous parlez de la prise de conscience de mes représentations. Si vous alliez jusqu'au bout de, cet exemple du voile, vous vous êtes rendu compte que quelle était votre représentation ?
Oui, bon, mais mes représentations, moi, je projetais ma conception occidentale du féminisme, par exemple. Et tant que j'avais cette conception occidentale du féminisme... Je ne pouvais pas découvrir qu'il y avait un mouvement féministe de femmes voilées en Iran, mais qui n'utilisait pas les mêmes arguments. Ils ne mettaient pas en avant Simone de Beauvoir, mais mettaient en avant la fille du prophète, qui était aux côtés du prophète dans les affaires publiques, pour mener des campagnes dans le monde rural, pour chasser les a priori que le voile serait pour enfermer la femme à la maison. Mais on est dans le contexte iranien d'une république islamique, donc après, le contexte joue aussi.
Alors, deuxième étape, vous dites la contextualisation, décentration, confrontation. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Vous faites quoi ? En fait, vous prenez des exemples, avait dit Armel Bekeh, c'est-à-dire vous mettez en situation, c'est ça ?
Ah oui, mais c'est une formation qui est impliquante, oui. Qui est participative, qui est expérientielle, je dirais.
Est-ce que vous avez un exemple que vous tirez de votre chapeau que vous pourriez nous donner aujourd'hui ?
Un exemple sur les prises de conscience de nos représentations, sachant que toutes les représentations ne sont pas des préjugés stéréotypes, mais les représentations, c'est le filtre à travers lequel je lis le monde. Donc on fait un travail sur les représentations a priori qu'on peut avoir des religions, le protestantisme, voilà. Et on a fait ce travail-là et on se rend compte qu'on en a tous. Donc c'est pas de dire c'est bien, c'est mal, mais c'est pour entrer dans une subjectivité consciente. Et quand je sais que je porte ça... Et que d'où ça vient, de par mon éducation, du milieu, etc., je suis en mesure de m'en décentrer.
D'accord, mais vous n'avez pas un exemple à nous citer, que vous avez une situation type que vous allez proposer donc, le 28 ou 29 mars prochain au Christ-Roi.
Alors, Elles émergent du groupe.
Armel Bekeh.
En fait, l'intérêt de cette formation, c'est que Marie-Claude demande à chacun d'exprimer un choc culturel qu'il a pu vivre. Voilà. Donc un choc culturel flagrant, que, par exemple, moi, j'ai pu vivre, c'est à l'occasion d'une de mes filles au Burkina Faso, au moment où le maire a posé la question à mon gendre, est-ce que vous avez choisi la monogamie ou la polygamie ? Je peux vous dire que le choc culturel qu'on a eu avec mon mari,
ah oui,
on s'attendait pas du tout à cette question.
D'accord,
voilà.
Il a répondu
ça,
juste, détendez-nous, qu'est-ce qu'il a répondu ?
Il a répondu la monogamie parce qu'il l'avait coché au départ, il ne s'attendait pas à ce qu'on le pose. Mais même ma fille a été très surprise, mais voilà.
Ah oui, et puis en plus vous aviez déjà payé le traiteur, c'est ça ? Donc vous ne pouvez plus faire marche arrière.
C'est exactement ça.
Marie-Claude Lutran, la troisième étape, c'est l'attitude de négociation, de médiation interculturelle. Expliquez-nous.
La médiation, non pas en tant que technique, mais en tant qu'attitude, en tant que manière d'être avec l'autre. Et donc là, ça nous introduit dans une relation que je dirais ternaire. Il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a ce qui se passe entre. Et ce qui se passe entre, c'est en fonction de la négociation, du dialogue qu'il va y avoir. Pour moi, l'espace entre, cet espace tiers, c'est le lieu de la co-création.
Mais alors, médiation et négociation, c'est quand même pas même le même terme. Ça recouvre des réalités différentes, du coup
La médiation, telle que j'en parle, c'est une attitude, une manière d'être avec l'autre. Hein. Et elle est nécessaire, parfois, dans des situations de négociation interculturelle. Où, bien sûr, je n'ai pas à rentrer dans la négociation avec tout le monde, mais quand je dois vivre avec quelqu'un en communauté, ou je dois travailler avec quelqu'un, et que je ne suis pas d'accord, ben, si je reste dans un positionnement frontal, je suis dans la confrontation. Il faut ouvrir cet espace. Il y a moi, il y a l'autre, il y a un espace tiers. Et ça va être le lieu de la négociation. Et l'attitude de médiation, qui est une attitude de non-pouvoir, d'écoute aussi, on voit un certain nombre d'attitudes propices à ça, aide.
Alors, avant la pause, vous allez, Norbert Michoua-Bongo, vous allez nous raconter l'histoire avec Ahmed en Algérie, parce que je la trouve symptomatique. Donc, vous êtes missionnaire, donc Père Blanc, c'est-à-dire que vous faites partie donc, de cette congrégation. Depuis 7 ans, donc, vous avez quitté donc, la République démocratique du Congo, vous avez été donc au Burkina Faso, puis en Algérie, en Afrique du Sud, et vous êtes à Toulouse depuis 4 ans, et en Algérie, vous avez fait une rencontre dans un train. J'aimerais que vous nous la racontiez, cette rencontre avec Ahmed.
Alors, cette rencontre, avec Ahmed entre effectivement dans ce que Madame Marie-Claude nous dit. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai pris le train et j'avais un chapeau en raffia que j'avais acheté au Burkina Faso. Je me mets et là, mon voisin qui s'appelait Ahmed, que je ne connaissais pas au départ, me dit « Macaque, ce chapeau ne se porte pas ici. » Macaque, c'est une sorte de singe. Hein? Mm. Alors, je le regarde. Je savais que pour, la pire insulte qu'il fallait pour les musulmans, c'était lui dire « cochon ». Alors, j'ai dit eh, « cochon, ce chapeau a plus de valeur que toi. » Le voyage a continué. Et à un moment donné, il me dit « Hé, macaque, est-ce que tu bois ?» Je le regarde, j'ai dit « cochon ». Est-ce que tu peux manger des biscuits? Le voyage a continué. Et à un moment, il me dit, hey, macaque, vous habitez dans les arbres? Bon, j'ai dit, ah oui, bien sûr, parce que l'ambassadeur, votre ambassadeur qui représente l'Algérie au Congo, habite aussi dans les arbres. Ah non, non, lui ne peut pas habiter dans un arbre. J'ai dit, mais oui, mais parce que chez nous, on habite dans les arbres, donc lui habite aussi dans les arbres. Et on a continué, et à un moment donné... Il...
Ça a duré et c'est étendu, vous m'avez
raconté. Ah oui,
ça, très tendu,
c'était très tendu.
Très frontal,
c'était vraiment, oui, oui, ça c'était vraiment très frontal. Mais à la fin, il m'a surpris. Il m'a dit, mais comment vous vous appelez? Alors moi j'ai dit, bon, je m'appelle Norbert. Et lui a dit, Ahmed. Et de ce point, il a dit, ah, c'est fini. Au lieu de m'appeler Macaque, il m'a appelé Ami, Sahbi.
Et alors, la bascule, c'est qu'il a eu besoin de vous, non? C'était,
ah oui,
vous
la
avez,
bascule,
vous avez échangé des choses.
Dans cet échange.
Un peu d'eau et un peu de biscuit.
D'eau, de biscuit, de jus. Alors, sur ce point-là, du coup, la relation s'était finalement détendue. Hein, de cette dureté du départ où on se traitait d'un côté singe, macaque, et de l'autre cochon ou porc. Et on est arrivé à se demander des noms et du coup, ça décantait.
Et, et c'est devenu un ami. Et racontez-nous la fin de l'histoire,
alors,
peut-être.
Avant à la fin, quand je suis... C'était au moment où j'arrivais à Oran. Et il me dit, mais qui vient te chercher? J'ai dit, oui, mes confrères viendront me chercher. Il me dit, mais tu les appelles et tu leur dis, non, moi je vais t'amener. J'ai dit, non, ils viendront me chercher. Bon, on a discuté, à la fin, il me dit, non, je viens demain te chercher pour te faire visiter la ville d'Oran. Je lui dis, très bien. Effectivement, Ahmed est venu le jour suivant et c'est la première personne avec qui j'ai visité la ville d'Oran. Jusqu'à aller chez lui dans sa famille et je suis devenu fils de la famille. Et le premier bon couscous que j'ai mangé en Algérie, c'était chez Ahmed. Et là, je me trouvais finalement dans une famille. Tous, il n'y avait plus de barrières. Comme quoi, on commence. Parfois, les relations peuvent aussi commencer dans la dureté. Mais elles finissent dans une beauté, dans une humanité formidable. Donc, personnellement, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de cette expérience du manque.
On va en parler après la pause, si ça vous embête pas. On va faire une pause, on va rester sur cette belle histoire. Voilà, macaque, cochon qui deviennent amis en Algérie. Pardon, je ne vous avais pas donné l'impression que je vous traite comme tel. On fait une pause et on vous retrouve. Vous allez nous raconter quelques-unes de vos expériences d'interculturalité ici en France. Thank you.
À Montrégeau, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pellat.
L'Église au défi de l'interculturalité, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église, motivée par une prochaine formation les 28 et 29 mars prochains au Christ-Roi, donc à Toulouse, sur ce sujet. Mais on imagine que d'autres diocèses aussi proposent des formations sur ce sujet, l'interculturalité. Donc journée entre 9h30 et 17h, on redonnera les informations pratiques à la fin de l'émission. Autour du plateau, Armel Becquet, responsable de la mission universelle de l'Église pour le diocèse de Toulouse, Marie-Claude Lutran, sociologue, enseignante à l'Institut catholique de Toulouse, sœur Dolores Savary Moutou, sœur indienne des missions étrangères, et Norbert Michwa Bongo, prêtre père blanc de la République démocratique du Congo. On s'est dit donc qu'on allait donner d'autres exemples du choc que peut représenter, enfin de l'enjeu que peut représenter l'interculturalité. On va commencer avec vous, sœur Dolores Savary Moutou. Vous m'avez raconté, et ça m'a surpris, je vous le dis franchement, qu'arrivée en France, vous avez été choquée par la manière qu'ont les Français et les amoureux et les couples d'être démonstratifs. Mais c'est pas ça qui m'a étonné, c'est un peu les conclusions que vous en tirez. Racontez-nous déjà ce qui vous gêne là-dedans.
On respecte les humains, on ne montre pas notre affection, notre expressif sentiment devant les autres.
Il y a une grande pudeur.
Grande pudeur, oui. Même on ne tient pas la main, même les femmes et les hommes, on ne tient pas la main dans la rue. Mais les hommes ensemble, les femmes ensemble, on peut, comme amis, on peut tenir, mais on n'est pas comme les hommes et les femmes.
Voilà, c'est-à-dire que les hommes se tiennent la main quand ils parlent et qu'ils discutent et qu'ils sont amis, mais oui. Hommes et femmes ne montrent jamais
la
nature de leur relation.
Oui, pour nous, c'était un grand choc pour voir ici cette... encore, ils sont très ouverts, ils ne sentent pas ce sentiment, quelque chose, ça gêne les autres. Ça, c'est spécialement entre les adolescents et les couples, jeunes couples qui fait...
Alors oui, de fait, excusez-moi, il y a deux choses. Donc il y avait ça, et puis après, vous vouliez dire un mot aussi du mariage. Alors il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, je me suis trompé entre l'un et l'autre. Mais dites-nous un mot du mariage. Alors là, j'avoue que moi, ça m'a surpris, c'était un choc interculturel avec vous. Racontez-nous cette histoire de mariage.
De mariage chez nous, mariage arrangé par la famille. Les familles qui rangent le mariage, parce qu'après l'engagement de la jeune, après seulement elles vont savoir aimer, elles vont apprendre à aimer entre eux. Mais ici, elle vit avec qui elle veut, s'échange tout le temps, ça nous fait grand choc.
Voilà, alors ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que nous, on considère en France et je pense en Europe en général, que c'est aussi un triomphe du christianisme que le mariage d'amour soit maintenant une règle générale. Voilà, on dit que l'Église a mis comme 2000 ans presque à christianiser l'amour pour que les mariages d'amour naissent. Vous dites que quelque part, vous voyez dans les mariages arrangés de votre culture un bénéfice.
Plus de positif, c'est parce que c'est toute la communauté qui engage, n'est pas que entre les hommes et les femmes. C'est la famille. En premier, personnel. Deuxième, c'est la famille. La famille à notre famille. C'est très, très proche. On reste intime, on reste relation. Voilà. Après, de famille, s'il y a quelques conflits, quelque chose, la société va interpeller. Alors, nous sommes engagés dans la société. De notre famille, notre village, tout entier, elles sont engagées par ma mariage pour toutes les célébrations.
Voilà, ce que vous me disiez, c'est que du coup, quelque part, ça protège un peu les mariés.
Oui.
C'est ce que vous pensez.
Oui, oui, oui.
Et que du coup, il y a moins de séparation.
Oui, c'est vrai.
Voilà, l'amour est moins volatile, peut-être. C'est...
Ça, c'est vrai.
Voilà,
mais
donc,
ici, ça me fait grand choc. On peut vivre comme nous voulons et changer encore 2-3 fois, changer. Les enfants souffrent, ça vraiment...
Marie-Claude Lutran, vous voyez là, vous avez un cas d'école, hein, ouais. Vous pourrez en parler. Hein. Je voulais que vous nous partagiez une autre de vos chocs interculturels, sœur Dolores. C'est quand vous êtes arrivée en France, vous attendiez à trouver un pays profondément chrétien. Voilà, dans votre imaginaire, c'était la représentation que vous aviez de la France. Mais vous avez découvert qu'il était, dans le fond, encore assez chrétien. Expliquez-nous ce que ça veut dire, en fait. Vous avez découvert que la France était irriguée par des valeurs chrétiennes sans parfois s'en rendre compte.
Oui, irriguée par valeurs chrétiennes, ça veut dire ici, on peut, tout le monde respecte les uns les autres. Ça me frappe beaucoup. Les Français essayent de rester fidèles aux grands principes de liberté, égalité, fraternité. Même toute personne est respectée depuis le président de la République jusqu'au plus humble citoyen. Alors, tous sont égaux devant la loi. Mais pour nous, chez nous, par le caste, par notre société, le travail, tout est éliminé, tout est mal respecté.
Et les personnes les plus pauvres sont parfois déconsidérées,
respecté.
Ce qui n'est pas le cas dans la culture française.
Oui.
Je trouve que c'est aussi la richesse, hein, parfois, Marie-Claude Lutran, d'avoir un regard extérieur, c'est
absolument.
Qu'on se rend compte justement de ce qu'on est, de ce qu'on vit, non ?
Mais c'est ça le décentrement, c'est-à-dire ne plus voir les choses qu'à partir de ses propres lunettes, mais se décentrer et se mettre à la place de l'autre, et prendre conscience qu'il réagit, il voit les choses à partir de son cadre de référence à lui. Et c'est la richesse, justement, il y a un conte soufi d'Inde, vous connaissez certainement la fable des aveugles autour d'un éléphant.
Non, tout le monde connaît sauf moi, donc allez-y, je pense qu'il doit y avoir 2-3 auditeurs qui ne connaissent pas.
On demande aux savants aveugles qui sont autour de l'éléphant, qu'est-ce que c'est l'éléphant ? Qu'est-ce que c'est cette réalité ? Et chaque aveugle, il va de sa définition. Celui qui est au niveau de la trompe va dire, bon, c'est comme un grand tuyau. Celui qui est au niveau du cerveau va dire, c'est dur comme du bois. Enfin, chacun a sa définition. Et après, la question, c'est de quoi ces aveugles ont-ils besoin pour résoudre le problème de leur différence par rapport à leur rapport à la même réalité qu'est l'éléphant ? Ben, à mettre en commun. Parce que chacun n'a qu'un angle de vue, un angle de vie. Il voit la vie, le réel, à partir de son angle de vue, de son angle de vie. Donc il a besoin de l'autre pour enrichir. Et je crois qu'il y a aussi un proverbe africain que je cite aussi dans la formation, c'est « La vérité, c'est comme le baobab, il faut être plusieurs pour en faire le tour. » Voilà. Donc,
il y a des baobabs en République démocratique du Congo ?
Non, pas en République démocratique du Congo, mais en Afrique de l'Ouest, nous en avons. Chez nous, nous avons d'autres sortes d'arbres. Mais effectivement, ce proverbe, nous l'utilisons beaucoup.
Père Norbert Michouabongo, est-ce que on pourrait finir l'émission ? Vous pourriez nous raconter aussi, vous, semble-t-il, votre choc culturel quand vous êtes arrivé en France, c'est le rapport que l'on a à notre prochain. Vous m'avez raconté que dans votre pays, en fait, ce qui prime, c'est la reconnaissance en fait, de l'autre comme une personne humaine, et qu'on peut lui dire bonjour, même si on ne le connaît pas, prendre du temps avec lui, et qu'en France, chez nous, alors à Toulouse peut-être moins, mais à Paris, vous frisez l'internement psychiatrique et vous avez le malheur d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander comment il va.
Bien, merci que vous avez précisé cela. Bon, c'est une expérience que j'ai vécue à Paris. Effectivement, chez moi, la salutation est importante. Si vous ne saluez pas quelqu'un, ça veut dire que vous êtes en colère contre cette personne. Vous avez donc une dent contre, et cela, ça risque toute une palabre. Arrivé en France, habitué évidemment à cette manière de faire, à Paris, les gens, au lieu de marcher, moi j'ai dit, ils courent.
C'est vrai, parfois ils courent.
Ils courent. Et je me demande, mais ils courent derrière quoi, en fait ? Il n'y a pas de temps pour se dire bonjour, il n'y a pas de temps pour reconnaître cette personne humaine qui est en face de moi ou devant moi. Ainsi, un jour, j'ai pris l'initiative à la sortie de métro, je commençais à dire bonjour aux gens. Je voyais quelqu'un qui passait, je disais bonjour avec un petit sourire. Et j'étais surpris, quelqu'un s'est arrêté et il m'a dit, messieurs, est-ce qu'on se connaît ? J'ai dit non. Voulez-vous quelque chose ? Voulez-vous me demander quelque chose ? J'ai dit, absolument pas. Et alors, pourquoi est-ce que vous me saluez ? J'ai dit, oui, mais c'est parce que je reconnais la personne qui est en vous. Et là, la personne a souri, a dit « Ah, ça c'est bien, ben, on n'est pas habitué à ça comme ça. » Et puis il est parti. Donc comme quoi, moi j'étais surpris du fait qu'une salutation peut au fait engendrer des questions. Vous dites peut-être qu'il y a un besoin de, je sais pas, d'aide, ou bien pourquoi est-ce qu'on se salue. On se sent en insécurité par rapport à une salutation.
Alors si vous pouviez finir par quelque chose de positif, quelque chose que vous avez découvert dans la culture française qui vous a frappé, où vous vous êtes dit, au début vous aviez du mal, et puis au fil du temps vous avez découvert que ça c'est un trait caractéristique de la culture française qui est une belle chose et qui vous a édifié.
Ah, il y a beaucoup, hein. Il y a quand même beaucoup.
Choisissez-en une, juste.
Il y a beaucoup d'exemples. Je peux partir déjà, par exemple, de cette rencontre. Hein. Bon, le changement déjà hein, de Paris vers Toulouse, où je ne suis que depuis quelques mois, ça m'est fait déjà presque 6 mois que je suis à Toulouse, où on va dans les bus, on entre, bonjour, à la sortie, merci messieurs, au revoir. Oui, mais ça change, ça fait quand même tout à fait, toute une autre image d'une autre culture, d'un autre peuple qui est, vous se dit, non, ce n'est pas une méfiance, mais par contre, on reconnaît quand même cette personne, ce chauffeur. Il a aussi besoin au moins de cette reconnaissance.
Voilà, mais c'est bien, vous nous avez fait de la pub pour la province et pour Toulouse et pour l'Occitanie. J'avoue que moi aussi, c'est une des choses qui m'a plu quand je suis arrivé à Toulouse, puisque je me suis essayé comme vous à dire bonjour parfois dans le bus à Paris, et vraiment parfois j'ai eu l'impression qu'ils allaient appeler les pompiers. Deux dates pour finir, donc la fête des peuples, c'est donc dimanche à Saint-Bertrand de Comminges, 10h à la basilique Saint-Just de Valcabrère, marche, repas, célébration à 15h. Vous pouvez dire deux mots peut-être de la fête des peuples quand même, Armel Becquet, grand rendez-vous du diocèse de Toulouse.
Alors c'est un grand rendez-vous du diocèse de Toulouse, et cette année il n'est pas au lieu du parc des expositions, parce que les communautés ont choisi de faire un pèlerinage pour découvrir une figure majeure du diocèse de Toulouse.
Mais expliquez ce qu'est la fête des peuples, parce que tout le monde ne connaît pas la fête des peuples.
La fête des peuples est préparée par l'ensemble des communautés catholiques venues d'ailleurs, c'est-à-dire les Malgaches, la coordination africaine, la communauté portugaise, etc., en lien avec la pastorale des migrants et la fête et la mission universelle.
Évidemment, tout le monde est invité. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas que des communautés étrangères qui se retrouvent entre elles à Saint-Bertrand de Comminges.
L'idée, c'est de vivre vraiment une journée d'interculturalité.
Voilà, et le 28 et 29 mars prochain, donc cette formation au Christ-Roi, donc sur l'interculturalité, entre autres avec Marie-Claude Lutran, qui était au micro de cette émission de 9h30 à 17h. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager comme ça. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.